Il y a des traditions de Noël qui sont incontournables, décorer le sapin, le réveillon, mais aussi, bien entendu, le top 10 des tendances marketing de l'année avec le professeur Luc Dupont, on le joint dans nos studios de Gatineau. Bonjour Luc.
Bonjour Ève-Marie.
Alors, tu as choisi un domaine dans lequel tout va vite. On ne peut pas dire que la cadence a diminué en 2017. Voici donc ton top 10 des événements marquants. Puis on va prendre ça en ordre chronologique, si tu veux bien. Mm-hmm. On se déplace au printemps dernier. Et à ce moment-là, en mars, il y a un grand joueur des médias sociaux qui se lance en bourse, et c'est Snapchat.
Oui, et je soupçonne qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont peut-être plus de 40 ans, qui sont plus ou moins familiers avec la plateforme. Mais ça permet à tout le moins de déjà donner un air d'aller à cette année-là qui, évidemment, là, sur le plan des thèmes, là, inlassablement, on revient toujours à la même chose, la crise des médias. Et ça, je pense que ça l'illustre bien parce qu'on parle d'une entreprise, après tout, qui permet de mettre des photos qui, l'espace de quelques secondes, sont là, puis oups, disparaissent. Mm-hmm. Bon, avec le temps, évidemment, qu'on a amélioré tout ça, on a ajouté certaines fonctionnalités. Je pense à, par exemple, la possibilité de devenir un petit animal ou avoir un arc-en-ciel qui défile dans la bouche au lieu d'avoir plutôt une langue comme ce serait le cas normalement.
Oui.
Mais au-delà de ça, puis reconnaissons que c'est extraordinairement trivial, là, tout ce qu'on se raconte là, mais l'espace d'un instant, voici une entreprise qui valait 40 milliards de dollars au moment du lancement en bourse et qui faisait quelque chose comme 2 à 300 000 dollars de revenus. Alors, tu as un premier indice de la folie qui va alimenter cette année-là du côté des médias. Et l'espace d'un instant, ça valait plus que CBS et plus que Delta, plus que Carnival aussi, la compagnie
des grosses compagnies de voyages.
Oui, des vraies compagnies avec des vrais profits dans bien des cas, puis des vrais revenus du monde aussi qui travaille. Et pour la petite histoire, je me plais toujours à rappeler que Snapchat, c'est l'histoire de trois gars qui sont dans un party, un petit peu en état d'ébriété, puis qui se posent la question, qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer pour faire une pièce rapide? Et il y en a un qui dit, tiens, si on avait un site avec des photos, mais qui disparaissent au bout de quelques secondes. Alors, tu me vois bien sûr venir. Les gars sont en état d'ébriété. Tiens, des photos, ça pourrait être des photos un petit peu plus osées. Hein? C'est
ben
un
oui.
petit peu comme ça qu'on l'a vendu à l'origine. Et ceux qui ont une mémoire d'éléphant se souviendront qu'au moment du lancement en bourse, il n'y avait pas trois personnes autour de la cloche. Il y en avait deux. Alors, il y en a un qui a été floué. C'est celui qui avait eu l'idée des photos qui disparaissent, qui avait eu l'idée du logo et qui avait même enregistré le brevet. Alors, quelques jours avant le lancement en bourse, on s'est entendu hors cours pour 158 millions de dollars, mais l'espace d'un instant, je te rappelle, ça a valu 40 milliards et aujourd'hui, ça vaut cette semaine autour de 19 milliards de dollars. En d'autres mots, il y a comme quelque chose comme 20 à 21 milliards de dollars qui sont disparus. Pouf!
Mais quand même, ça a été profitable pour Snapchat de se retrouver sur la bourse?
Ça a été certainement profitable pour les investisseurs initiaux qui ont fait un paquet de fric, mais depuis ce temps-là, c'est un petit peu plus difficile, il faut le reconnaître. Surtout que Facebook a copié systématiquement chacune des fonctionnalités de Snapchat. Si bien qu'aujourd'hui, Facebook, c'est Snapchat avec beaucoup plus de choses.
Ouais, Instagram?
Instagram, oui, c'est aussi.
Ça.
Même chose, oui. Instagram aussi, qui a été acheté.
On prend les idées.
Oui, oui, puis qui a été... qui est aussi, à la fin, essentiellement, un site de photos. Bon,
ben
depuis
oui.
ce temps-là, il y a des vidéos. Instagram, qui fait partie de la famille Facebook et qui a été acheté, là, je le rappelle, c'est un des grands vols de l'histoire. Bon, même si ça peut toujours apparaître un peu gênant de le dire comme ça, mais Facebook a acheté ça 1 milliard. Et je me souviens qu'au moment où Facebook fait cette acquisition-là, les gens étaient à peu près unanimes à dire, mais ils sont complètement fous, un site de photos acheté à hauteur d'un milliard. Il y a des gens qui pensent qu'au moment où on se parle, ça vaudrait quelque chose comme 40 à 45
ça
à 50
bon
milliards
sens.
De dollars.
Ouais, écoute, on va laisser les médias, les nouveaux médias pour parler des médias plus traditionnels et on va reconnaître que ça a été une année difficile pour la presse écrite. Au mois d'avril, Transcontinental a mis en vente ses hebdos au Québec.
Oui, et puis encore là, ça permet très, très bien d'illustrer avec le premier exemple qu'on vient de se donner. Il y a comme un clash, là. C'est très, très fort. Alors, d'un côté, des médias qui génèrent peu de revenus puis qui valent une fortune. Puis de l'autre côté, les hebdos ici, souvent papier. Alors, c'est Transcontinental qui annonce qu'elle va vendre 93 de ses journaux au Québec et en Ontario. Là aussi, pour la petite histoire, Transcontinental avait acheté les journaux de Québécois en 2014, les 40 journaux. Je te mentionne ça parce que pour ceux qui sont moins familiers avec l'industrie, il y avait essentiellement deux grands joueurs, d'un côté Transcontinental, de l'autre côté Québécois. Alors, Transcontinental avait fait l'acquisition des 40 journaux régionaux de Québécois en 2014. Puis là, trois ans plus tard, dit, savez-vous quoi? Je pense qu'on va revendre tout ça. Et la beauté dans cette histoire-là, parce que tout n'est pas triste, c'est que plusieurs poches de responsables marketing, d'éditeurs locaux, qui depuis ce temps-là, ont fait l'acquisition d'un certain nombre d'hebdos. Alors, en fonction des territoires...
C'est des gens de la place qui achètent, c'est ça?
Oui, qui connaissent bien le marché, évidemment.
Ouais.
Dans certains cas, qui ont travaillé longtemps pour ces journaux-là, alors qui savent ce qu'ils sont capables de faire, mm-hmm. de livrer comme mm-hmm. marchandises, et qui connaissent le potentiel commercial aussi, publicitaire, parce que bien souvent, rappelons-le, pour beaucoup de marchés au Québec à l'extérieur des grands centres, les hebdos, c'est souvent, avec la radio par ailleurs, mais c'est souvent le point de contact numéro un sur le plan local.
Le média de proximité.
Oui, oui. Hein? Et il n'y a jamais personne qui va être mieux placé que quelqu'un au coin de la rue pour t'expliquer ce qui se passe chez toi. J'ai beaucoup d'amis beaucerons qui sont toujours un petit peu étonnés de voir les médias arriver une fois par année chez eux quand c'est la rivière Chaudière qui déborde.
C'est ça.
Ils sont même un petit peu en maudit, pour ne pas utiliser un autre terme. Mais, et c'est ça la beauté des médias locaux, c'est qu'ils sont là, puis ils sont là 24 heures sur 24, 365 jours par année.
Mais eux aussi ont à se questionner puis à se positionner par rapport au virage numérique. Il y a le gouvernement Couillard qui a annoncé 36 millions là, pour soutenir la presse écrite il y a deux semaines à peine. Est-ce que ça pourrait aider pour la relance à long terme?
Bien, ça va certainement, oui, à aider, je te dirais plutôt à court terme, à tout le moins. Déjà, certains de ces médias-là, ces hebdos-là, ont fait le saut sur Internet. Tu peux, par exemple, télécharger la copie hebdomadairement mm-hmm. du journal en question. Donc, graduellement, ce virage-là avait été fait. Il y a encore un petit peu de travail, évidemment, de ce côté-là. Puis surtout, rappeler aux annonceurs le potentiel des hebdos. Et ça, je pense que c'est l'autre grand travail, parce que malheureusement, depuis 5 à 6 ans, ce qui s'est passé avec les médias traditionnels, et c'est pas juste vrai avec les hebdos, c'est aussi vrai même en télévision, en radio également, du côté du magazine, c'est qu'à un moment donné, tout s'est passé comme si on avait cessé de rappeler aux annonceurs les bienfaits d'annoncer dans ces médias-là. Alors, sans surprise, ces gens-là sont allés voir ailleurs. Et quand on demande des sous, Ève-Marie, évidemment, on aura compris que pour l'annonceur qui suit pas l'actualité médiatique, mm-hmm. ça veut dire quelque chose. Je suis pas sûr que c'est toujours une très, très bonne idée d'aller cogner comme ça puis demander des millions. Parce qu'après ça, l'annonceur, il dit, mais voyons, si ça se passait bien, il ne serait pas en train d'aller voir les gouvernements. Tu vois un petit peu le genre de problème que ça pose.
Oui,
alors, ça, il faut le faire avec beaucoup de doigté.
Quel genre de signal ça envoie aussi, exact.
Oui.
On continue notre voyage dans le temps au cours de l'année dernière en marketing. En numéro 3 dans ton bilan, tu indiques la rupture, la fin de l'alliance qui a duré 40 ans entre McDonald's et le Comité international olympique.
Oui, et encore là, une nouvelle qui s'inscrit tout à fait dans la révolution médiatique. Pourquoi? Bien, parce que McDonald's, c'est un des premiers annonceurs de l'ère nouvelle en 1976, les Jeux olympiques de Montréal. On avait plusieurs centaines d'annonceurs qui avaient payé quelque chose comme 6 à 700 000 $ au total tout. Aujourd'hui, ce serait inimaginable. Un annonceur aujourd'hui à 700 000 $ aurait même pas quelque chose là, qui aurait du bon sens durant des Jeux. Alors, dans le cas de McDonald's, pourquoi c'est une nouvelle qui est importante? C'est parce que pour avoir côtoyé une autre époque, avoir vu comment ces gens-là fonctionnaient à l'interne, il n'y a pas une entreprise qui mesure plus ses rendements publicitaires, ses rendements commandites, ses rendements promotionnels que McDonald's. Alors ça, c'est un signal qui est important.
Oui.
C'est McDonald's qui dit, savez-vous quoi? Pour deux Jeux olympiques, 100 millions de $, nous, soudainement, on pense que ça n'a pas de bon sens. Et ça n'a pas de bon sens, pourquoi? Parce que c'est trop cher, parce que les codes d'écoute des Jeux de Rio, les derniers Jeux d'été de Rio, ont plongé entre 15 et 30 % en fonction de la case horaire là, durant le moment de la journée et le moment de la semaine. Les gens aussi regardent les Jeux olympiques de façon... C'est très différent. Là. Tu ne regardes pas ça de façon continue maintenant. Tu choisis tes événements. Par exemple, c'est le 100 mètres, le sprint, qui devient
L'épreuve reine. Là.
Oui, qui est l'épreuve reine.
Mais est-ce que ça va être le signal, Luc, pour que le CEO se pose des questions, là, en voulant dire qu'on est rendu, on a exagéré peut-être dans les droits de télédiffusion, dans les droits d'exclusivité pour les publicités?
Oui, et puis on a peut-être sous-estimé aussi l'importance de notre capital image. On l'a vu récemment avec l'annonce de la Russie mm-hmm. qui ne participera pas aux Jeux olympiques. On s'aperçoit que peut-être que pendant longtemps, on a étiré un petit peu la sauce. On était copain avec des pays qui probablement jouaient pas tout à fait réglo. Et on se retrouve avec McDonald's qui dit, nous, on a deux maudites bonnes raisons de ne plus vous accompagner. Un, on pense que ça coûte très cher. Moins de perdieux, évidemment. Puis l'autre problème, on n'aime pas trop s'accoler à votre image. Et depuis ce temps-là, c'est assez remarquable de constater que plusieurs nouveaux annonceurs qui ont remplacé là, sur le plan de la commandite à l'échelle mondiale de niveau 1 là, sont des annonceurs asiatiques qui sont peut-être moins sensibles à ce stade-ci, à tout le moins, à ce capital image-là que projettent les Jeux olympiques. Mais l'autre signal aussi qui est important, Yves-Marie, c'est qu'on a peut-être atteint un plafond sur le plan des montants qu'on peut demander dans le cadre de commandite.
Okay.
Et ça, pour le domaine du sport, c'est un grand signal cette année.
Alors, cette nouvelle-là est survenue en juin dernier. Et en juillet, c'est le modèle 3 de Tesla qui est lancé le 28 juillet précisément.
Là, une toute petite incursion dans le monde des produits, parce que jusqu'à maintenant, on était dans médias, dans commandites, publicité, c'est un petit peu plus traditionnel. Pourquoi c'est important le modèle 3? Parce que c'est le premier segment, en fait, c'est le premier modèle milieu de gamme que lance Tesla. Jusqu'à maintenant, force est de reconnaître que ça se passe plutôt bien, en fait, jusqu'à il y a quelques mois. Je dis ça parce qu'on a eu un petit problème avec le modèle 3, autour de 450 000 à 500 000 commandes. Mais le problème, c'est qu'au troisième trimestre de cette année, on a livré 222 modèles 3. Donc, je reviens avec mes chiffres.
Bon, on n'y arrive pas, là.
Non, on n'y arrive pas. Là, il y a un sérieux problème. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a 65 000 personnes qui ont dit, sais-tu, si t'es pas capable de livrer la marchandise, bye-bye. Ouais. Mais ce qui les sauve, c'est qu'il y a 1 800 personnes qui se lèvent par jour et qui disent, sais-tu, j'en veux une, moi, une modèle 3.
Il y a 300... des fils, il y a des fils et des fils pour les modèles, là.
Oui, c'est très fort. Puis, entre-temps, il y a quelques semaines aussi, tu as certainement vu, on a annoncé le lancement de la semi-remorque, des lignes très futuristes dans le cockpit, là, au lieu d'être assis à gauche, comme on l'est normalement dans un camion. Là, on est assis au centre. Alors, ils ont complètement revu la manière d'imaginer une semi-remorque. Et il faudra voir ce qui va se passer éventuellement. Mais au moment où on se parle, beaucoup de commandes. Mais là, le problème, c'est que quand quelqu'un commande une voiture à 35 000 $ US, puis tu ne la livres pas au moment où tu avais promis de la mettre
disponible,
effectivement. Là, c'est pas trop grave, mais quand une compagnie comme Walmart, une compagnie comme Loblaw, comme Canadian Tire, etc., dit « on vous a commandé des camions », il faut que les camions soient livrés. Mm-hmm. Et si on cherche le petit défaut d'Elon, Elon Musk, qui est certainement le Steve Jobs du 21e siècle, c'est un bon pitcher. Sur le plan des relations publiques, il est remarquable. Mais le problème, c'est qu'une fois de temps en temps, il y a un échéancier. Il faut livrer à cet échéancier-là. Et jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que Tesla a souvent des petits problèmes de ce côté-là. Alors, le grand défi en 2018, il va falloir...
C'est livrer la marchandise. Il faut livrer la plus marchandise. Plus jamais.
C'est le cas de
dire. C'est ça. En septembre, une grosse nouvelle chez nous qui fait dire à tous qu'on trouve de tout maintenant, même l'épicerie.
Oui.
Métro fait l'acquisition de Jean Coutu.
Oui. Et là, ça s'inscrit là aussi dans l'air du temps. Quelques mois auparavant, Amazon qui achète Whole Foods, qui va du côté de l'alimentation. Les rumeurs persistantes qu'éventuellement, on irait du côté de la pharmacie, qui sont pratiquement confirmés par les gens d'Amazon au moment où on se parle. Il y a bien sûr Walmart qui est là-dedans maintenant, Costco, McKesson qui est une bannière à peu près inconnue au Québec, mais qui est un géant de la distribution pharmaceutique aux États-Unis qui a fait l'acquisition d'une couple de bannières de ce côté-là au Québec. Loblaw qui a Pharmaprix et Métro qui avait déjà Brunet. Alors tout ça nous mène à, logiquement à quelque chose qui ressemble à si vous êtes Jean Coutu, vous voulez générer de la croissance, tôt ou tard vous êtes obligé de vous trouver un copain et le copain ici, c'est Métro qui a fait un chèque de 4,5 milliards de dollars pour l'entreprise, pour le nom aussi, parce que Jean Coutu a un capital de sympathie remarquable année après année au Québec. C'est souvent tantôt la première, tantôt la deuxième, puis exceptionnellement la troisième entreprise la plus appréciée de l'ensemble de toutes les marques qui sont évaluées. Ce qui est donc...
La naissance d'un géant maintenant.
Oui.
Là.
Et là, c'est un géant. Puis il y a même des gens, au moment où on se parle, qui disent que le géant, éventuellement, va devoir encore manger autre chose pour être encore plus gros. Mais la beauté dans ce cas-ci, c'est que c'est une entreprise québécoise qui connaît bien Jean Coutu, qui a acheté une autre entreprise québécoise. Alors, au total, tout à la fin, on se retrouve avec un joueur qui est certainement très, très sensible aux réalités des uns et des autres.
On est rendu au mois de septembre et les pubs TV de 6 secondes apparaissent maintenant. Et tu nous as parlé des avantages pour les annonceurs. Ça a changé les choses, ça.
Oui. Alors, autre signal que le monde des médias est en constante transformation, c'est qu'à un moment donné, on dit, c'est-tu quoi, on est passé dans les années 60 des pubs 60 secondes, éventuellement aux pubs 30 secondes, éventuellement aux pubs 15 secondes. Et ça, c'est suite à une poursuite célèbre aux États-Unis d'un annonceur qui a dit, moi, je ne veux pas acheter des 30 secondes. Vous me brimez dans mon droit à l'expression. Je veux acheter des 15 secondes. Mmh. Il a gagné le procès. Et puis, éventuellement, on se retrouve soudainement avec des pubs de 6 secondes en septembre, octobre, du côté de Fox Sports. Alors, pourquoi c'est comme ça? Bien, parce que tu as une télécommande dans les mains. Qu'est-ce que tu fais durant la publicité des fois?
Bien, tu as tendance à aller voir ailleurs, mais il ne faut pas.
Il ne faut pas. Mais la recherche nous dit que ça t'arrive assez souvent.
Ouais.
L'autre chose, tu enregistres une émission, mais quand tu la regardes par la suite, tu la regardes à vitesse accélérée.
Oui, puis tu passes les publicités.
Il ne faut pas non plus, tu me diras, mais ça arrive. Après ça, il se passe quoi? C'est le temps d'attention de la nouvelle génération. Moi, je les ai dans mes cours. Hein? Tu ne leur donneras pas un cours de 3 heures. Là. Il faut
non.
Une petite pause à un moment donné. Il faut qu'il y ait des petites vidéos. Il faut que ça bouge un peu.
Après 3 secondes, là, si notre machine fonctionne fonctionne pas. Ça a l'air qu'on commence à être impatient.
On est déjà un petit
on
peu,
est
oui.
déjà... voyons, c'est brisé. Hey, 3 secondes, c'est pas long, là.
C'est pas long. Alors, on est là-dessus intraitable. Mm-hmm. Et ça explique les pubs de 6 secondes pour contourner, au fond, tous ces problèmes-là technologiques. Alors, imagine le jour où tu auras une pause de 60 secondes à l'intérieur de laquelle tu retrouveras une dizaine de pubs de 6 secondes. Hein, le genre de réaction que tu risques d'avoir. Pour l'instant, on essaie de contrôler ça le plus possible. Il y a une pub de 6 secondes par bloc de pub. Mais éventuellement, si ça fonctionne bien, et là, on s'est inspiré, je te le donne en mille, de YouTube. On revient toujours aux médias sociaux. Alors, dans ce cas-ci...
C'est un peu eux qui mènent.
Oui, c'est eux qui absolument tirent tout ça. Puis, il ne faudrait pas s'étonner, en 2018, Eve-Marie, qu'une entreprise, par exemple, comme Apple, qui va rapatrier des centaines de milliards de dollars des États-Unis là, avec les nouvelles politiques fiscales qui ont été votées cette semaine aux États-Unis, fasse, par exemple, l'acquisition de Netflix. Je ne serais pas du tout surpris que quelque chose comme ça se passe.
On va aller dans les mauvaises nouvelles. En 7e position, au mois de septembre, Toys R Us, qui se place sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.
Oui, et là, on a eu deux, coup sur coup, on a eu comme ça deux problèmes, et pas tout à fait sur le plan logique, là, tout à fait le même type de difficulté, mais dans le cas de Toys R Us, c'est qu'on vend des jouets. Alors, je confirme qu'on vend des jouets. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de dette. Toys R Us, il y a plusieurs années, avait un contrat avec Amazon, un contrat d'exclusivité pour la vente de jouets. Un matin, ils se sont réveillés, se sont aperçus que les gens d'Amazon vendaient par le biais d'intermédiaires des jouets que normalement, eux, auraient dû vendre. Ils ont vu venir Internet, mais ça leur a pris beaucoup de temps à faire le saut officiel. Et l'autre difficulté, puis c'est un problème qui est très d'ordre, je dirais, social, psychologique aussi, c'est le cycle de vie des jouets. Par exemple, la petite poupée. Mm-hmm. La petite poupée, autrefois, pouvait t'accompagner plusieurs années.
Oui, puis tu pouvais la laisser à ta petite sœur après.
Oui, aussi, effectivement. et là, le problème, c'est que le cycle de vie est beaucoup plus court. Puis le nouveau jouet, ça s'appelle un téléphone intelligent. Si bien que dans le cas de Toys R Us, on a des difficultés. Ouais. Probablement qu'on va fermer un certain nombre de magasins. C'est des choses dont on a beaucoup parlé cette semaine, assurément. Et on a déjà des statistiques sur les ventes de ce Noël-ci aux États-Unis par rapport à la même période l'an dernier aux États-Unis, et il y a un recul de moins 15 %. En d'autres mots, cette rumeur-là, en fait, ce n'est pas une rumeur dans ce cas-ci, c'est une nouvelle, là, mais elle a fait mal à la marque. Puis je me permettrais une autre prédiction 2018, Eve-Marie. Tiens,
vas-y.
Je ne serais pas surpris que l'industrie du jouet, face à ce défi-là ou ce problème-là que vit actuellement Toys R Us, décide de se restructurer. Et il y a une rumeur persistante qu'Hasbro, G.I. Joe, pourrait acheter Mattel.
Barbie.
Barbie, exact. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, Ken va avoir un petit problème ici.
Triangle amoureux en vue, là, Luc.
Oui, il faudra voir.
Tu sais, G.I. Joe, il y a un background militaire, hein? En tout cas.
Et il faudra voir comment ça va se passer, mais je ne serais pas surpris que pour contourner cet obstacle-là, parce que les distributeurs puis les fournisseurs, évidemment, les compagnies de jouets, il y en a quelques-unes, mais tu as deux gros joueurs, là, c'est le Coke et le Pepsi là, de l'industrie du jouet, soient appelés à se regrouper. Ça serait mon autre prédiction.
Oui, et chez nous, au Canada, selon même la presse canadienne, La Nouvelle Économique, c'est Sears qui ferme, qui annonce la fin de ses activités.
Et là aussi, c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis très longtemps et qui s'inscrit encore dans nouveaux médias, dans nouvelles plateformes, parce que c'est le marketing web. Alors ça, Sears, c'est l'histoire la plus triste de l'année, assurément, à tous les niveaux. Alors sur le plan, par exemple, médiatique, c'est l'histoire de quelqu'un qui a, à toute fin pratique, inventé le catalogue à la fin du 19e siècle. Alors normalement, au début des années 2000, aurait dû dire, dans le fond, Internet, c'est un gros catalogue, prenons notre catalogue, puis foutons-le. Hein,
sur le web, mais non.
Alors, c'est ça qui est malheureux, c'est que, dans un document qui a été rendu public quelques années plus tard, Sears a dit, nous, au début 2000, on le savait qu'il fallait aller faire sur le web et vendre nos produits sur le web. Le maudit problème, c'est qu'on l'a dit, mais on ne l'a jamais fait.
Grande leçon là-dedans.
Ouais. Et ça s'est fait en deux temps du côté de Sears. Dans un premier temps, en juin, on a dit, on va fermer 59 magasins et on va couper 2900 emplois. Puis plus récemment, on a dit, non, ce n'est pas ça qui va se passer. On va fermer 130 magasins et on va remercier plus de 12 000 employés au pays. C'est assurément la nouvelle triste de l'année. Mais ça nous rappelle qu'au pays des nouvelles plateformes, au pays d'Internet, si on ne s'ajuste pas, le danger éventuel, c'est le danger c'est carrément de disparaître.
Hey, Luc, pour les deux derniers items, il y en a un dont on a parlé ensemble la semaine dernière. Alors, c'est Disney qui achète la 21st Century Fox. Ça, c'est une chose. Mais les briseuses de silence, personnalité de l'année du magazine Time, en 2016, c'était Donald Trump qui avait eu cet honneur-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Oui, ah ben, c'est assurément sur le plan social, sur le plan médiatique aussi, le phénomène le plus important parce qu'il annonce quelque chose. Hein.
Le social devient marketing, là?
Oui, certainement. Et il y a des gens qui diraient, au fond, qu'un grand phénomène marketing, là, quand on parle des étages supérieurs, c'est souvent, au départ, un phénomène social. Par exemple, dans les années 60, la Volkswagen, c'était un phénomène social. Ça disait quelque chose sur toi. Et on l'a vu comme ça ponctuellement dans l'actualité. Pokémon, il y a deux étés, c'était, au fond, au départ, un phénomène médiatique, nouvelle plateforme, mais qui est devenu un phénomène social. Moi, quand, par exemple, à 11h le soir, je croise au centre-ville d'Ottawa des centaines de personnes qui sont agglutinées autour d'un coin de rue parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose.
Ça devient social.
C'est social. C'est alors, MeToo, moi aussi en français, qui est un phénomène social d'une ampleur extraordinaire, mais qui est impossible sans l'apport des nouvelles plateformes. Fait qu'on revient là-dessus. C'est pour ça que c'est aussi un phénomène médiatique. C'est aussi un phénomène communicationnel. C'est assurément, puis je pense que ça a été reconnu à juste titre par les gens de Time qui disent, savez-vous, il y a quelques années, on avait donné ce titre-là de personnalité de l'année à nous, hein, au moment où on commençait à parler des médias sociaux. Il y a plusieurs personnes, je te rappelle, Eve-Marie, qui avaient beaucoup ri de ça, hein, qui avaient dit c'est ridicule. Je pense qu'aujourd'hui, on réalise que c'était très,
c'est
très
ça. Ils ont parlé trop vite parce que le temps a donné raison au Time. Hein?
Et dans ce cas-ci, on est tout à fait dans les mêmes eaux. Il faudra voir comment ça va se manifester en 2018. Il y a évidemment des risques de dérapage. N'ayons pas peur des mots ici parfois.
Ouais.
Mais pour l'instant, force est de constater que...
Le procès sur la place publique plutôt que dans les cours de justice. Mais comme tu dis, on constate que cette communauté-là fonctionne.
Oui, et ça donne naissance, en fait, à un phénomène là, qui était, jusqu'à tout récemment, absolument inimaginable, impensable aussi. Et ça, on le doit assurément aux plateformes, aux médias sociaux aussi. Le sentiment, au fond, que si les médias traditionnels n'en parlent pas, ça ne veut pas dire maintenant qu'un phénomène ne peut pas croître, ne peut pas prendre de l'importance. Et cet élément-là, le mois aussi de décembre, là, qui nous a accompagnés, au fond, toute l'année. Hein. On dit souvent que c'est à partir du moment où on a parlé de Weinstein, mais déjà avant, on avait des premiers indices de ça. Taylor Swift avait déjà fait, je te rappelle, sa poursuite.
Oui,
hein,
pour le journaliste, la main sur les fesses.
Qu'elle a gagné. Et elle a dit, moi, les sous que je vais remporter suite à ce procès-là, je les donnerai à des œuvres caritatives. Donc, sur ce plan-là. Et ça explique aussi pourquoi elle était sur la couverture du magazine Time. Et pour les gens qui sont très, très attentifs et qui verraient ou qui s'enfargeraient à nouveau dans cette couverture-là, vous remarquez aussi qu'il y avait quelqu'un qu'on voyait partiellement. Et ça, c'était la manière qu'avait Time de nous rappeler qu'il y a aussi des gens qui sont sortis, qui ont préféré rester anonymes pour toutes sortes de raisons personnelles qui sont les leurs, mais qui ont pensé que par ailleurs, ça méritait de, sur la place publique, prendre la parole. Oui. Alors, sur ce plan-là, dans 10, 15, 20 ans, puis je ne serais même pas étonné qu'en septembre prochain, déjà, on aura des étudiants qui feront des thèses là-dessus en essayant de comprendre comment ce phénomène-là a pu prendre.
Comment ça s'est passé à la fin 2017. Luc, merci. C'était le fun de revisiter ces sujets de la dernière année avec toi.
C'est un plaisir. Puis permets-moi de souhaiter à tous les gens qui nous écoutent un joyeux Noël et une bonne année 2018.
À toi aussi, joyeux Noël.
Merci.
Luc Dupont, professeur de marketing à l'Université d'Ottawa.